France Musique.
Bonjour à tous, bonjour Rodolphe.
Bonjour Émilie, l'opus 1 de Haydn et de grandes partitions de Dutilleux.
On commence avec Bach. Dernier disque solo de Leonidas Kavakos dont je vous ai parlé était consacré aux sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce disque que j'avais beaucoup
mais
aimé,
oui.
Enregistré pendant le confinement. Enfin, en tout cas, l'idée était née du confinement. Et donc, il a aujourd'hui enregistré les concertos pour violon. Alors, jouer ce répertoire, ce n'est pas facile pour ce musicien habitué des grandes pages classiques et romantiques. Il n'était pas toujours heureux de la manière dont Bach sonnait sur son Stradivarius. Alors, il a changé d'archet. Il a essayé différents archets et il s'est finalement arrêté sur une copie d'un archet français du début des années 1800. Et lorsqu'il a pris cet archet en main et qu'il s'est mis à jouer, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à lui. Alors au niveau de l'articulation, des couleurs, ça lui offrait des possibilités infinies. Et donc pour lui, c'était impossible de jouer Bach sans ce précieux instrument. Enfin en tout cas, cet archet qui l'a aidé à trouver son chemin, à trouver sa voix et qui l'a poussé à l'enregistrement. On va entendre donc un autre extrait de ce disque. Son concerto préféré, c'est celui en ré mineur. Il l'a découvert dans les années 80. Et le jouer, dit-il, lui donne autant de plaisir que jouer le concerto de Brahms qu'il aime tant. Voici donc Leonidas Kavakos avec le Apollon Ensemble.
Thank you.
Le concerto BW 1052 de Bach, Leonidas Kavakos et l'ensemble Apollon. Alors l'idée aussi sur l'accompagnement, c'est qu'il voulait un tout petit ensemble, un quintet à cordes et à clavecin, rien de plus. Il pense que c'est ainsi qu'on peut se sentir le plus proche de la musique. Donc 4 concertos au programme et un petit bonus, cette aire de la 3e suite.
Thank you.
L'air de la troisième suite orchestrale de Bach par Leonidas Kavakos avec l'Apollo ensemble. Et c'est donc notre disque du jour à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr.
Il est 9h17.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Thank you.
hommage à Catherine Collard. C'est ici le projet du pianiste Damien Michel qui se souvient de celle qui fut son professeur avec un disque traversé par des œuvres qui en creux font le portrait de la pianiste Catherine Collard, de la rigueur de Bach à la poésie de Debussy à l'instant avec le clair de lune. Catherine Collard qui laisse d'ailleurs une sublime intégrale des préludes de Debussy. On y trouve aussi la musique de notre temps parce que Catherine Collard avait remporté le concours Messiaen et elle n'avait pas peur de se lancer dans des œuvres les plus ardues comme celle de Boukhareff par exemple. Et donc j'ai vu que le label Erato allait bientôt regrouper les enregistrements de la pianiste. Ça va nous faire plaisir.
Très bonne nouvelle.
Je pense qu'on pourra passer plusieurs jours en compagnie de Catherine Collard qui a eu deux maisons de disques, Erato puis Lyrinx, label pour lequel elle laisse de sublimes disques, dont un concerto de Schumann. Et j'avais envie ce matin, en regard du disque de celui qui fut son élève Damien Michel, eh bien, de se souvenir des enregistrements de Catherine Collard et notamment un concerto de Schumann que je trouve absolument incroyable, l'orchestre de Monte Carlo. Michel Tabachnik, chef d'orchestre et compositeur, dirige ici Catherine Collard. On va écouter le troisième mouvement de ce concerto de Schumann. Thank you. La fougue et la passion de Catherine Collard dans ce concerto de Schumann, l'orchestre de Monte Carlo, sous la direction de Michel Tabachnik. C'est un beau cadeau en ce lundi de Pâques. En attendant, ce coffret Erato qui devrait arriver prochainement pour replonger dans les chefs-d'œuvre de Catherine Collard.
Quelques scènes de village maintenant, vous êtes sur France Musique. Vous connaissez ces scènes de village de Bartok ?
Mais il me semble qu'il existe une version pour piano et chœur aussi.
Alors ça, c'est possible parce que dans les pages qu'on va entendre dans ce disque, il y a plusieurs versions, souvent des œuvres. Mais ce sont des œuvres qu'on n'entend pas forcément tous les jours. Alors Bartok, Janáček et Stravinsky, c'est un disque qui s'appelle Histoire de village. Stravinsky, on connaît quand même la pièce qui est dessus puisque c'est Noces, ces quatre tableaux musicaux évoquant un mariage paysan en Russie. On connaît peut-être donc un peu moins les trois scènes de village de Bartok qui sont inspiré d'air folklorique que le compositeur a collecté en actuelle Slovaquie. Et puis de Janáček, encore une autre œuvre, des comptines. C'est l'œuvre d'un musicien de plus de 70 ans et il paraît qu'il connaissait la musique de Stravinsky, qu'il possédait notamment la partition de l'histoire du soldat et qu'il s'en est inspiré pour composer ses œuvres, ses comptines. C'est une version du chœur philharmonique de Prague dirigée par Lukas Valitschek. Thank you. Les comptines de Janáček, le chœur philharmonique de Prague dirigé par Lukáš Vajíček. C'est un disque qui est déjà multi-récompensé, on le comprend, et on fait de belles découvertes avec également les trois danses de village de Bartok et les noces de Stravinsky.
On n'en a pas tout à fait fini avec le populaire.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Alors c'est le moment de voir, Émilie, si vous suivez cette émission. en piste.
Pas sûr.
Alors, volume combien de l'intégrale des quatuors de Haydn par le quatuor de Leipzig?
Volume 12.
Bon, déjà, vous ne suivez plus très bien cette émission depuis plusieurs volumes. Volume 17.
Oh, mais j'étais pas si loin non plus.
Non, non, mais quand même. Et c'est une intégrale. J'en ai raté 5. C'est une intégrale qui a commencé en quelle année?
En 2008. Hein.
2009. Vous êtes pas loin, vous êtes à côté à chaque fois, mais pas très loin. Donc, intégrale des quatuors de Haydn par le quatuor de Leipzig, avec des membres qui viennent du Gewandhaus de Leipzig. Ils se sont réunis il y a déjà bien longtemps et ils nous enregistrent des enregistrements, des enregistrements à tour de bras. On en a beaucoup, et notamment même parfois sur de la musique dite contemporaine. Et aujourd'hui, voici l'opus 1 de Haydn. Il n'avait pas encore enregistré ses œuvres d'un tout jeune homme qui avait été appelé par un prince pour écrire de la musique d'ameublement. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est en tout cas, c'était des quatuors déjà inventifs par ce jeune Haydn. Il n'a pas 20 ans. C'était l'opus 1 numéro 1. À l'instant, voici l'opus 1 numéro 3. Le Quatuor opus 1, numéro 3 de Haydn par Le Quatuor de Leipzig, volume 17 d'une intégrale qui n'est sans doute toujours pas finie, à moins qu'ils aient décidé de finir par l'opus 1, je ne sais pas, peut-être finalement.
Et ça aurait été écrit, vous l'auriez vu tout de même si l'intégrale était finie. À gagner vers 9h20, Tancred, c'est l'œuvre de Campra que vous pourrez gagner dans cette émission. Et en attendant, voici Chopin. Il adore enregistrer, il adore les intégrales, il aime toutes les époques de l'histoire de la musique et je le soupçonne d'enregistrer pour être diffusé dans En Piste.
Sans doute.
Vous croyez pas?
Je le crains.
Le Britannique Peter Donohue est de retour cette fois avec un disque où il a choisi les variations sur un thème de Chopin de Rachmaninoff et les deuxièmes et troisième sonate de Chopin, vous venez d'entendre la troisième. Et c'est intelligent de rapprocher Chopin et Rachmaninoff. Je me suis rendu compte que c'était pas si souvent fait en piano. Pour les sonates pour violoncelle, les deux sont toujours rapprochés. Mais en regardant un petit peu, j'ai vu qu'Hélène Grimaud avait enregistré à l'époque un disque avec Chopin et Rachmaninoff. Et voilà.
Pas tant que ça.
Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui sort quand on cherche. Enfin, il faut vraiment chercher pour trouver un disque. Alors qu'on sait que Rachmaninoff aimait beaucoup Chopin, qu'il a souvent joué le compositeur lors de concerts. Un disque qui plaît beaucoup aux critiques de son pays, celui de Peter Donohue, puisque certains écrivent Peter joue comme s'il était entré dans l'esprit de Rachmaninoff. On va donc entendre maintenant la deuxième sonate de Chopin. Thank you. Un mouvement de la deuxième sonate de Chopin. C'est le nouveau disque de Peter Donohue qui enregistre pour beaucoup de maisons de disques différentes, de répertoires différents, beaucoup d'intégrales ou autres réjouissances. Et ici, donc, c'était Chopin, Rachmaninoff.
Et il y a un lien entre Chopin et Dutilleux, encore plus secret que celui avec Rachmaninoff. Mais vous savez donc que l'arrière-grand-père de Dutilleux, Constant Dutilleux, le peintre, était ami de Delacroix. Et donc, Delacroix, Chopin. Et donc, l'arrière-grand-père de Dutilleux, Dutilleux raconte ça dans ses écrits. Et il connaissait bien Chopin.
Ah, ils sont
ils se sont rencontrés. Et c'est tout ça pour vous dire qu'on va écouter la musique de Dutilleux maintenant.
Oui, ne le dites pas comme ça, rien.
Oui, parce que j'aurais pu dire, ah, il y a un lien entre Chopin et Georges Sand, par exemple.
Voilà, absolument.
L'Orchestre Philharmonique de Luxembourg nous propose un très beau disque Dutilleux avec la première symphonie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la musique de Dutilleux s'est inscrite dans nos programmes et c'est devenu un classique de notre époque. Henri Dutilleux, grand compositeur français, avec une musique qui garde, je trouve, son mystère et sa poésie. Ici enregistrée par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg sous la direction de Gustavo Rimeno. Un très beau disque où on y entend son concerto pour violoncelle par Jean-Guyenne Queyras, Tout un monde lointain. Et puis deux grandes partitions pour orchestre, cette première symphonie qui avait été créée par Roger Desormières et les Métaboles, qui avait été créé par Georges Selle, qui avait été commandé par Georges Selle. Et c'est aussi peut-être pour ça que Dutilleux s'est imposé auprès de nos orchestres, c'est parce qu'il a été joué par de très grands chefs et de grands orchestres. Et sa musique, elle fascine toujours parce qu'il y a quelque chose, et Métabole en est finalement peut-être l'expression, c'est une sorte de rhétorique pour désigner la répétition d'une idée avec des mots et des expressions différentes. Et c'est un peu ça, sa musique, c'est une sorte de quelque chose de très organique qui change tout le temps. On vient de l'entendre ici dans cette première symphonie. Et Métabole, c'est peut-être le chef-d'œuvre de Dutilleux qui se trouve également sur ce disque. Thank you. Savez-vous que le manuscrit autographe des métaboles de Dutilleux est classé trésor national par le ministère de la Culture, qu'il a été préempté par la Bibliothèque nationale de France lors d'une vente aux enchères en 2018 pour la somme de 143 000 euros.
C'est une bonne information.
Mais oui, et c'est une partition qui vaut beaucoup plus que ça.
Et absolument,
beaucoup
ça c'est
plus
sûr.
Belle que 143 000 euros. Les métaboles de Dutilleux, l'Orchestre philharmonique du Luxembourg, sous la direction de Gustavo Rimeno.
C'est l'heure du disque à gagner.
France Musique.
Tancrède de Campra, c'est une intégrale sortie en 2015 avec Olivier Schnebelli. C'est un disque qu'on vous propose ce matin de gagner sur cette danse que vous avez entendue. Donc c'est un enregistrement en concert.
Et c'est la ville de naissance de Campra qu'on vous demande ce matin, André Campra. André,
tout
ah
à
oui,
fait, c'est son prénom. Non, c'est parfait.
Est-il né à Aix-en-Provence, à Paris ou à Lens? André Campra, né à Aix-en-Provence, à Paris ou à Lens?
Est-ce que vous avez la bonne réponse?
Moi, oui, et oui, j'attends celle des auditeurs.
Votre réponse, francemusique.fr, la page de l'émission En Piste.
Contre le poids des anges, 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 contre le poids des anges
De la musique d'André Campra avec Olivier Schnebeli, les temps présents et les chantres du Centre de musique baroque de Versailles, sorti en 2015. C'était donc une production donnée en concert, un très bel opéra qui nous propose de connaître aussi la ville de naissance d'André Campra.
Campra le Provençal. Campra le Provençal, né à Aix-en-Provence. Merci Émilie pour cette belle émission en votre compagnie.
Écoutez Rodolphe, le lundi de Pâques et les jours fériés se lever.
C'est toujours un plaisir
dès 7h du matin pour vous retrouver.
Auditeurs.
Voilà, absolument. Et on sera là aussi demain. Merci également à notre équipe qui était là en ce lundi de Pâques, Alex Autinois, Karine David et Léa Gramusset.
À réécouter sur francemusique.fr.